Problème technique. Oui, pas de signal. Alors, en attendant qu'on arrange l'informatique, j'aimerais vous souhaiter un très bon matin. Quel beau chant, encore une fois, qui réchauffe nos cœurs, qui nous rappelle qui nous sommes, sauvés par la grâce de Dieu, en route pour le ciel, ayant Dieu pour notre Père, notre Sauveur. Alors, bienvenue à vous tous. Et si vous êtes ici pour la première fois, vous êtes un visiteur, la plus cordiale bienvenue. Et ma prière, c'est que vous reviendrez aussi une autre fois pour entendre parler justement de la grâce et la bonté de notre grand Dieu. En attendant, je peux peut-être démarrer ici. Alors, ce matin, nous allons commencer une toute nouvelle série, comme vous pouvez voir à l'écran, qui s'intitule « Jésus l'incomparable ». Et pourquoi Jésus l'incomparable? Parce qu'il n'y a personne comme lui qui a jamais existé. Quelqu'un a bien dit, il a vécu dans la pauvreté. Il n'a jamais écrit de chant, il n'a jamais fondé de collège, mais aujourd'hui encore, 2000 ans après, on est en train de chanter à propos de sa personne. Il y a plus de disciples et d'élèves que toutes les universités au monde, dans le monde entier, et même encore en 2017, son nom résonne encore. Alors, qui est ce personnage extraordinaire? C'est mon sauveur et c'est le sauveur aussi de plusieurs ici ce matin, Jésus l'incomparable. Alors pour justement regarder ce personnage extraordinaire, nous allons le voir à travers quatre messages que nous avons préparés pour vous. Les messages qui ont une portée évangélique parce que Jésus est le centre de l'évangile. Alors, ce matin, nous allons regarder Jésus qui est l'agneau incomparable. La semaine prochaine, si nous sommes toujours ici, si le Seigneur n'est pas encore revenu, c'est toujours notre espérance, le retour de Christ. Mais, advenons le cas que nous sommes ici, le Sauveur souffrant, le Seigneur ressuscité, ça va coïncider avec Pâques et ensuite le roi qui revient. Alors, si vous ne pouvez pas ce matin dire que Jésus est votre sauveur, que vous le connaissez de façon intime et personnelle, vous ne voudrez pas manquer aucun de ces messages. Si vous avez des contacts, vous dites « je suis déjà sauvé, je connais Christ comme mon sauveur personnel », mais vous pouvez, c'est une occasion extraordinaire justement pour inviter vos contacts pour qu'ils puissent entendre parler de ce personnage extraordinaire, incomparable qui est Jésus. Et aussi, si vous n'avez pas de contact, vous dites, mais moi je suis sauvé, qu'est-ce que ça va m'apporter d'entendre parler de l'Évangile? J'ai une question pour vous. Êtes-vous capable d'exprimer clairement l'Évangile à vos contemporains? Vous allez entendre parler justement de ça à travers ce message. Et aussi, en même temps, il y a toujours une application pratique, même si nous sommes sauvés, même si nous connaissons le Seigneur. Dans chaque message, il y aura une application pratique pour les croyants. Alors, à ne pas manquer. Commençons alors avec le message de ce matin, Jésus, l'agneau, impeccable. Et juste pour expliquer le terme, l'agneau... Aujourd'hui, on pourrait dire qu'on appelle un homme un agneau, mais il faut bien comprendre le contexte de cela. Vous allez vous rappeler peut-être sans doute de Jean-Baptiste qui a vu le Seigneur Jésus-Christ et qui a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et Jean-Baptiste appelait Jésus agneau parce qu'il avait dans sa tête l'image. Et c'était un juif, et dans le culte que les juifs offraient à Dieu, avant que Jésus meure sur la croix, il y avait toujours l'idée des sacrifices, des agneaux, des bœufs. qu'on offrait justement à Dieu comme sacrifice pour le péché. Et ça, c'était son image quand il a dit, voici l'agneau de Dieu. Alors, on le reprend aujourd'hui en 2017 parce que Jésus est toujours cet agneau, ce sacrifice parfait qui a été offert pour l'humanité. Alors, l'agneau impeccable. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais commencer en vous posant une question. Au fait, deux questions. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Et comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Une question qui est très importante et aussi même très pertinente aujourd'hui en 2017, parce qu'il y a des gens qui cherchent encore la réponse pour ces questions. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Et comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Et remarquez bien, on ne dit pas comment est-ce que l'homme serait juste les uns devant les autres. Ce serait très facile. J'ai juste à me comparer à vous, et ou bien vous pouvez vous comparer à moi, et on trouverait toutes sortes de manières de se justifier les uns devant les autres. Mais la question, c'est comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Et comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Alors, il faut comprendre ici maintenant que si on va parler de cette manière d'être juste devant Dieu, il faut bien saisir et comprendre qui est Dieu, comment est Dieu, pour qu'on puisse bien comprendre alors comment il faut être juste devant Dieu. Alors, comment est Dieu? Alors, la Bible nous dit que Dieu est saint. Et nous allons considérer alors les réponses à cette question face justement devant Dieu, face à un Dieu qui est saint. La parole de Dieu nous dit que les anges, les séraphins proclament « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». Nous lisons aussi dans Habacuc 1.13, « Tes yeux sont trop purs pour voir le mal et tu ne peux pas regarder l'iniquité. » Alors, si j'avais à définir la sainteté de Dieu, comment est-ce que Dieu est? Alors, on peut penser à toutes sortes de synonymes. Un Dieu qui est juste, un Dieu qui est intègre, un Dieu qui est droit, un Dieu qui est pur, un Dieu chez lequel il n'y a aucun défaut. Alors, la question est, comment est-ce qu'un homme peut être juste devant un tel Dieu? Alors, la réponse, ce serait, vu que Dieu est saint, vu que Dieu est juste, vu que Dieu est intègre, il est pur, il est droit, pour quelqu'un de paraître devant Dieu, et d'être juste devant Dieu, il faudrait aussi qu'il réponde aux exigences justement de la sainteté et de la pureté de Dieu. Alors la parole de Dieu nous dit, Dieu nous montre exactement qu'est-ce qu'il désire en étant être capable de dire « cette personne est juste, vous serez saint car je suis saint ». Et c'est tout à fait logique et pratique et normal parce que Dieu est saint, alors pour être juste devant Dieu, il faudrait aussi avoir cette caractéristique de sainteté. Et dans la pratico-pratique, ça se traduit par une vie parfaite, vécue en parfaite obéissance à sa loi. Et dans Genèse Galates 3:12, alors on parle de la loi de Moïse, c'est des commandements que Dieu avait donnés à son peuple. Et il y avait des gens qui voulaient justement les mettre en pratique pour être justifiés devant Dieu. Et l'apôtre Paul, qui a rédigé cette lettre, leur a dit, « Écoute, si vous voulez justement prendre les commandements de Dieu et les mettre en pratique, celui qui les mettra ces choses en pratique vivra par elles. » Alors, ils sont en train de dire, « Votre vie parfaite, vous pouvez l'avoir si vous obéissez complètement, parfaitement à toute la loi de Dieu, à tous les commandements de Dieu. » C'est la seule manière d'être juste devant Dieu. Il y a aussi un deuxième exigence justement de la sainteté de Dieu. Et nous avons parlé de cela ce matin, ceux qui étaient ici pour le repas du Seigneur. On a parlé de la colère de Dieu. Parce que Dieu, dans sa sainteté, dans sa justice, exige et réclame justement la mort pour la désobéissance à la loi. Peut-être que vous allez dire que c'est dur, c'est difficile. Comment est-ce qu'on peut parler d'un Dieu qu'on démontre toujours comme un Dieu d'amour et qui nous dit maintenant que pour ceux qui ne sont pas capables d'obéir parfaitement et de remplir et de justement rencontrer les exigences parfaites à cause de sa sainteté, mais la conséquence, c'est la mort. Et il faut bien comprendre pourquoi c'est comme cela, parce que la sainteté de Dieu est quelque chose qui même nous échappe. Et dans la parole de Dieu, on voit Moïse qui a demandé de voir Dieu. Et Dieu, dans sa pureté, dans sa sainteté, cette puissance éclatante, dit « L'homme ne peut pas voir ma face et vivre. » Et là, nous avons une petite idée de qu'est-ce que c'est d'être devant un Dieu qui est trois fois saint. Et cette sainteté-là réclame alors la mort pour la désobéissance si on n'est pas capable justement de vivre cette vie parfaite que sa loi exige. Et c'est ce que Dieu a dit à Adam. Il a donné justement des commandements. Dans le jardin d'Éden, il pouvait manger de tous les arbres du jardin, mais il a dit que tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, désobéissance, tu mourras certainement. Et Dieu aussi parle à l'humanité, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Alors voilà les deux, justement, exigences de la sainteté de Dieu. Une vie parfaite, si on va voir la vie, selon, justement, la perfection. Et si on est incapable, mais la conséquence, c'est la mort. Alors on revient à la question. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? La pratique de la religion. Certaines vont nous dire, si on leur pose cette question, « Ah, mais il faut juste pratiquer une religion. Il faut juste être sincère. Et Dieu, il va comprendre. » On peut s'arranger avec Dieu. Mais vous savez, des religions, dans une religion, c'est toujours faire. C'est toujours une liste d'observation des choses qu'il faut faire avec l'espérance de plaire à Dieu, avec l'espérance de rencontrer justement cet standard qui est si élevé. Et la problématique avec cela, c'est qu'on n'est jamais, 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 et je répète, certain de si on a atteint justement le standard que Dieu a prescrit. Et une chose avec la religion, vous pouvez vous dire que les Juifs avaient une religion. C'est eux, ce peuple à qui Dieu a révélé justement les 10 commandements, les lois, les commandements. Il y avait tout cela. Il y avait des prêtres, il y avait des sacrificateurs, il y avait des hommes, des scribes, des hommes qui ont étudié, des érudits dans la parole de Dieu. Et pourtant, ils ont commis la pire injustice de toute l'humanité. Ils ont crucifié le Fils de Dieu. Et c'est ce que l'apôtre Pierre va leur dire dans Actes chapitre 2 quand il prêche justement son serment. « Homme israélite, Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage, vous, avec votre religion, avec votre connaissance de la parole de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par les mains des impies. » D'autres vont dire, pratiquez des bonnes œuvres. Aimez votre prochain. Faites du bien aux autres. Ce sont des bonnes choses. Je ne suis pas contre, justement, faire du bien les uns aux autres. Mais combien de bonnes œuvres ça va prendre? Vous savez, des fois, c'est populaire de dire, OK, je fais des bonnes œuvres et quand je me parais devant Dieu, il va mettre mes bonnes œuvres dans un côté de la balance, il va mettre mes ratés dans l'autre côté, puis il va peser cela, puis si mes bonnes œuvres, là, ça remporte, là, alors je suis correct. Mais vous savez que même la parole de Dieu dit que nos bonnes œuvres, et je cite dans Ésaïe 64, 5, nous sommes tous comme des impurs. Et toute notre justice, toutes nos bonnes œuvres est comme un vêtement souillé devant Dieu. Et parce que Dieu connaît le cœur. Et très souvent, les bonnes œuvres que nous pouvons faire sont faites justement pour attirer l'attention sur nous autres, avoir la gloire, avoir la louange des hommes. Et les pharisiens étaient des hommes qui étaient experts dans cela. Et Jésus leur a dit, vous faites de longues prières, et justement pour être vu des hommes. Et quand vous jeûnez, vous défigurez votre visage pour que le monde dise, ah, quel homme, quelle femme pieuse. Et ce n'est pas exactement ça que Dieu voulait. Alors ça nous ramène alors à cette question, comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Qui parmi nous a toujours gardé parfaitement la loi de Dieu? Si on est honnête ce matin, si je suis honnête, si je réponds à la question qui a jamais menti, qui dira « J'ai purifié mon cœur, je suis net de mon péché » ? La réponse est personne. La Bible nous dit alors, on en part ici, ce qu'on appelle la ruine de l'homme. Il n'y a pas de juste, pas même un seul, devant cette perfection que Dieu exige de sa création. Non, il n'y a pas sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Ecclésiaste 7, 20. Personne ne sera justifié encore par les œuvres de la loi, car c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Alors ça, c'est ce que Dieu déclare. Ça, c'est le verdict de Dieu à propos de l'humanité et à propos aussi de cette question qui est toujours là. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? La bonne nouvelle ce matin, c'est que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et Dieu a trouvé un remède, parce qu'on parle ici de la justice de Dieu, de la sainteté de Dieu, et ça c'est le côté négatif. Mais nous avons aussi un côté positif, l'amour de Dieu, un Dieu qui nous aime de façon extraordinaire. Alors il savait qu'on était mal pris dans cette condition, incapable de rencontrer les exigences de sa loi qui demande la perfection et en même temps exposé à sa colère, à la mort, la séparation avec Dieu à cause justement de cette incapacité d'être parfait devant lui. Mais c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu qui aime sa création. Et il a trouvé une solution extraordinaire. On a parlé de cette question, comment un homme sera-t-il juste devant Dieu? Mais Dieu a trouvé un homme. Il a trouvé un homme qui nous représente, qui prend notre place et dit, écoute, vous ne pouvez pas le faire, mais moi je peux le faire. Et qui est cet homme? C'est Jésus, l'agneau impeccable. Vous savez, il y a deux écoles de pensée. On parle de l'impeccabilité versus peccabilité. Peccabilité veut dire que Jésus était capable de ne pas pécher. Je n'ai pas le temps ce matin d'entrer dans toute la polémique de ces deux questions, mais il y a ceux qui disent que pour que les tentations de Jésus aient leur pleine valeur, il fallait qu'il soit capable de pécher, mais il ne l'a pas fait. L'impeccabilité dit non.
Il était incapable, il n'y a pas question.
Jésus était incapable de pécher. Et là, c'est ce que nous allons explorer, pourquoi maintenant Jésus est incapable de pécher à cause de ce qu'il est. Il est l'homme, mais aussi il est Dieu. Deux natures distinctes, mais dans la même personne, parfaitement Dieu et parfaitement homme. Et il fallait que ce soit comme cela pour régler notre problématique et pour donner une réponse à cette question-là. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Et ça, c'est la solution. Dans la personne de Jésus-Christ, nous avons ces deux natures, parfaitement Dieu, parfaitement homme, pour répondre à cette problématique. Alors, parfaitement Dieu, parfaitement homme, et la parole de Dieu explique comment cela s'est produit. Philippiens nous dit que Jésus-Christ existait en forme de Dieu. Ça, c'est avant, justement, son incarnation. Il était au commencement, comme Jean chapitre 1 nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ça, c'est Jésus-Christ avant, dès les temps anciens, dans l'éternité. Et Philippiens nous dit qu'il s'est dépouillé lui-même en devenant semblable aux hommes, il a paru comme un vrai homme. Alors celui qui est né à Bethléem, dans une crèche, était Dieu incarné, homme aussi. Jean nous dit, j'ai déjà cité le verset, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et la parole a été faite chair. Et Jean ajoute, et nous avons contemplé sa gloire, la gloire comme fils unique venu du Père. Alors il n'y a pas de doute que Jésus-Christ, l'agneau impeccable, avait cette nature divine parce qu'il est aussi Dieu. Et sa divinité est appuyée, soutenue par Dieu le Père lui-même. Si vous lisez dans le livre aux Hébreux, Dieu va parler à son Fils et il va dire ceci, il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Ça, c'est Dieu le Père qui parle à Dieu le Fils. Et il va l'appeler Dieu. Ton trône, parce que le livre des Hébreux parle de Jésus-Christ, tout son sacrifice et comment il est un souverain sacrificateur et tout cela. Et Dieu parle à son Fils. Il va dire, il va l'appeler Dieu. Jésus aussi va donner son propre témoignage en ce qui concerne sa divinité. Il va dire ceci, moi le Père, nous sommes un. Et celui qui m'a vu, a vu le Père. Et c'est pourquoi les Juifs étaient vraiment scandalisés. Les Juifs disaient, toi, tu blasphèmes. Tu es un homme et tu te fais Dieu. Ils ne savaient pas que c'était le contraire. C'était Dieu qui s'est fait homme. Alors, en tant que Dieu, Jésus n'a jamais péché, car Dieu ne peut pas pécher. Nous avons aussi sa nature humaine, son humanité impeccable et démontré par sa conception. Et là, vous avez justement le récit de l'ange qui va parler à Marie. Et quand elle dit, oui, tu vas avoir un enfant, mais là, Marie est tout à fait, ça cloche. Comment est-ce que cela pourrait être parce que je suis vierge, je n'ai jamais connu d'homme? Et là, l'ange va lui donner la réponse maintenant. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. La conception, cette naissance de Jésus a eu lieu par la puissance du Saint-Esprit. Et quand les hommes, les auteurs des évangiles vont justement parler de la généalogie de Jésus, ils vont faire attention. Parce qu'il va parler des hommes qui ont engendré des hommes, qui ont engendré un tel qui ça, c'est son fils qui engendre un tel. Et quand il arrive justement à Jésus, regarde ce qu'on dit. Jacob, ça c'est le père, engendra Joseph. Et là tout de suite, on ne dit pas Joseph engendra Jésus. Non, 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 non. Parce que Jésus a été conçu par le Saint-Esprit. Mais l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus. Vous voyez la différence? Comment est-ce que la parole de Dieu est tellement claire pour nous montrer que son humanité est parfaite parce qu'il n'a pas été conçu par un père humain. Son humanité aussi impeccable est aussi appuyée par ses propres paroles. Jésus a pu dire devant les foules qui étaient là, « Je fais toujours ce qui lui est agréable. » Lui a dit, « Moi, je suis capable et je fais toujours devant mon Père ce qui est agréable. Alors, je suis en train et je vis une vie de perfection parce que tout ce que je fais, c'est toujours, c'est par des fois, quelquefois, toujours, 100%, jour après jour, je vis parfaitement devant le Père, une vie parfaite. » Et il a dit aussi, « Qui de vous me convaincra de pécher ?» Il y a aussi des disciples, des témoignages des autres. Paul va dire ceci, « Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous. » Pierre va lui dire, lui qui n'a point commis de péché. Et Jean va dire, il n'y a point de péché en lui. C'est pourquoi ce matin, on peut déclarer que Jésus est l'agneau impeccable, parfaitement Dieu, parfaitement homme, qui n'a jamais, jamais, jamais péché et qui a vécu cette vie parfaite que la loi et la sainteté de Dieu exigent. Mais bien, je dis, Jésus, l'homme Dieu, l'agneau impeccable, en tant qu'homme, il a vécu devant Dieu la vie parfaite que la sainteté de Dieu exigeait. En tant que Dieu, maintenant, sa mort pouvait avoir une valeur infinie, suffisante pour satisfaire à la justice de Dieu et pour aussi procurer le pardon des péchés. Là, vous avez les deux. Cette vie parfaite, son humanité couvre cela. Les conséquences pour la désobéissance à la loi de Dieu, la mort, mais aussi sa mort couvre cela aussi. Les deux sont rencontrés dans le même personnage. Alors, on revient à la question. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? On a vu les hommes dans leur imperfection. Personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nous avons vu de l'autre côté l'agneau impeccable, Jésus, parfaitement Dieu, parfaitement homme, pur, saint, qui a vécu cette vie parfaite que la loi de Dieu exige, la sainteté de Dieu exige, et qui aussi est Dieu. Alors, comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Bien sûr, réponse, c'est de recevoir Jésus-Christ. C'est de recevoir Jésus-Christ. Et ça, c'est l'Évangile. Quand l'homme imparfait, exposé justement à la colère de Dieu et la mort à cause de cette imperfection, incapable dans ses actions, même si son vouloir est là, à cause de la sainteté de Dieu et cette justement exigence de perfection, reçoit Jésus-Christ, alors Dieu met la vie parfaite de Jésus à son compte. N'est-ce pas extraordinaire? Et mais ses péchés au compte de Jésus. Et ça, c'est le message pour la semaine prochaine. Il ne va pas me dévancer. Le sauveur souffrant. Mais on parle justement de sa perfection. Alors, pour ceux qui ont déjà reçu Jésus-Christ comme leur sauveur, et c'est que ce matin, il y a plusieurs ici qui l'ont reçu, qui justement se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas capables de vivre cette vie de perfection devant Dieu et qu'un jour, ils ont reçu Jésus comme leur sauveur personnel. Alors, il y a une application pratique. Je vous ai dit, même si c'est l'Évangile, il y a une application pratique pour les chrétiens. Alors, voilà une application. Ne savez-vous pas que les injustes, en part de la justice, n'hériteront point le royaume de Dieu? Et c'est là que vous étiez. L'apôtre Paul est en train de parler aux Corinthiens. Il leur a dit, écoute, vous étiez des hommes et des femmes qui n'étaient pas justes devant Dieu. Et c'est là que vous étiez. Mais vous qui avez reçu Jésus-Christ, maintenant voici votre nouvelle position devant Dieu. Vous avez été sanctifiés. Vous avez été lavés. Vous avez été lavés. Vous savez la question, on dit, comment est-ce que l'homme né de la femme serait-il pur? Mais la réponse est là. Quand vous avez reçu Jésus-Christ, vous avez été lavé. Et Jésus donne un exemple de cela dans la chambre haute quand il va laver les pieds de ses disciples. Vous savez, vous rappelez l'histoire, il va prendre un bassin, il met de l'eau là-dedans, il commence à laver les pieds de ses disciples. Et là, il arrive à Pierre. Et Pierre dit, wow, un instant, Seigneur, tu ne me laveras jamais les pieds. Et Jésus a dit, non, si je lave par tes pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Il dit, non, ok, Seigneur, si c'est comme ça, lave-moi la tête, les mains, tout. Et le Seigneur a dit, non, celui qui est déjà lavé, il n'y a pas besoin de prendre un bain au complet, il a juste besoin justement de se faire laver les pieds. Et l'enseignement que Jésus était en train de donner avec cette leçon, c'est qu'il y a une fois dans notre vie, quand on reçoit Jésus-Christ, on part de la nouvelle naissance, la régénération, nous avons été lavés, purifiés par le sang de Jésus-Christ. La justice de Dieu, de Jésus, a été mise à notre compte. Alors, aux yeux de Dieu, à travers Jésus-Christ, nous avons reçu cette bain de régénération. Nous sommes purs, nous sommes propres. Mais le fait qu'il y a lavé les pieds des disciples, c'est parce que chemin faisant, on n'est pas rendu au ciel. On n'a pas des ailes en arrière, on n'a pas un petit halo ici, là. On n'a pas des anges. Il y a justement des manquements, des péchés qu'on va commettre. Et Jésus était en train de dire, il y a une façon justement de rester dans ce que vous avez reçu au début. On va le voir prochainement, mais l'idée c'est que vous avez été lavé, vous avez été sanctifié, vous avez été justifié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ça c'est très important, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, voilà où ce que je m'en viens. Dans l'Ancien Testament, il y avait le souverain sacrificateur qui était là, et cet homme entrait dans la présence de Dieu. Et cet homme représentait Dieu devant les hommes, et représentait les hommes devant Dieu. Et Dieu a dit dans toute la parure qu'il avait, des belles robes et tout cela, il y avait justement un bonnet. Et sur le bonnet, il y avait une lame en or. Et c'était écrit « Sainteté à l'Éternel ». Et quand les hommes et les femmes regardaient cet homme, ils voyaient justement cet écrit « Sainteté à l'Éternel ». Et ça, c'est une belle illustration de nous, les croyants, qui avaient été reçus Jésus-Christ, qui avaient été lavés, nous avons été purifiés, nous avons été sanctifiés. C'est comme si c'était écrit ici « Sainteté à l'Éternel ». Et même si nous ne pouvons pas imiter Jésus dans sa divinité, il n'y a personne ici qui est capable de marcher sur les eaux, je ne crois pas, ou bien ressusciter des morts, quoi que ce soit. Mais Dieu nous demande de limiter Jésus dans sa humanité et dans sa sainteté. Ce ne serait pas parfait. La parole de Dieu nous dit de rechercher la sanctification. Et comment est-ce qu'on fait cela? Mais je vous donne juste rapidement deux aspects de faire cela. La confession des péchés. Ça, c'est ce que je parlais tantôt, laver les pieds. Nous avons reçu ce bain qui nous a lavé devant Dieu. Aux yeux de Dieu, nous sommes parfaitement purifiés, nous sommes purs. La question a été répondue quand nous avons reçu Jésus-Christ. Mais chemin faisant. À chaque jour, nous avons besoin d'aller dans la présence de Dieu. Comme le souverain sacrificateur, il s'arrêtait justement, il y avait une cuve où est-ce qu'il s'est lavé les mains avant de rentrer et les pieds avant de rentrer dans la présence de Dieu. Et nous avons besoin de faire la même chose. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Comment est-ce que l'homme qui est né de la femme serait-il pur? Mais à travers Jésus-Christ, on est purifiés, mais aussi nous avons une responsabilité à chaque jour de se purifier. Et quelle belle prière, sonde-moi, oh Dieu, le psalmiste a dit, et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Une deuxième manière aussi de rester dans justement la pureté, la sanctification, imiter Jésus dans son humanité impeccable, c'est la consécration, la lecture et la méditation de la parole. Parce que la parole de Dieu a cette puissance de nous purifier. Jésus a dit ceci, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole et la vérité. » Quelqu'un a bien dit, « Le péché me gardera de ce livre ou ce livre me gardera du péché. » Et ça, c'est vrai. Le chrétien qui prend le temps à chaque jour de plonger ses regards, de méditer, est en train justement de progresser dans la sanctification. Et deux beaux textes dans Psaume 119, « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole ?» Et je sers ta parole dans mon cœur, et le psalmiste se dit, afin de ne pas pécher contre toi. Voulez-vous éloigner, et nous avons cette responsabilité, rechercher la sanctification par la confession des péchés et aussi par la consécration, la lecture et la méditation de la parole. Quelqu'un a bien dit ici, un homme ou une femme qui marche dans la sanctification est une arme puissante entre les mains d'un Dieu saint. Pourquoi? Parce que le texte dans 2 Timothée nous dit ceci, « Si quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, encore l'idée de la sanctification, il sera une vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. » Dieu a préparé les œuvres de justice pour vous et moi, frères et sœurs. Et ces œuvres de justice sont accomplies dans la sanctification. Et comme j'ai dit, c'est un antidote pour la médiocrité. Et deuxièmement, et je termine avec ceci, pour ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ, comment est-ce que l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? La question est là. Recevoir Jésus-Christ. Mais comment est-ce qu'on reçoit Jésus-Christ? C'est de l'inviter. C'est de l'inviter. Dans Apocalypse 3:20, Jésus est à l'extérieur d'une porte. On utilise cela, on parle de ces églises. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Il est à l'extérieur. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Alors, si vous êtes ici ce matin, vous ne connaissez pas Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, vous pouvez l'inviter. Jésus, j'ai besoin de toi. Je me rends compte que je ne peux pas vivre cette vie de perfection devant toi. Je suis exposé à la colère de Dieu, à cette mort éternelle séparée de Dieu. Mais ce matin, je veux inviter Jésus dans ma vie afin qu'il devienne mon maître, mon sauveur. Je veux avoir sa perfection devant Dieu. Et je veux être épargné justement de la séparation et de la mort éternelle. Et inviter Jésus-Christ. Alors, reconnaître tout d'abord, première chose, parce que Jésus a dit, je ne suis pas venu appeler les justes. Et ce n'est pas ceux qui se portent bien qui ont besoin d'un médecin. Il faut reconnaître que nous sommes tous des impurs. Et devant Dieu, toute notre justice est comme un vêtement souillé. On ne peut pas plaire à Dieu comme nous sommes. Si quelqu'un ne se voit pas malade, il n'ira jamais voir le médecin. Alors, il faut reconnaître que devant Dieu, tous sont péchés et se sont privés de la gloire de Dieu. Deuxième chose, c'est se repentir. Et ce terme, c'est un terme militaire. Ça veut dire simplement faire un 180. Je m'en vais dans une telle direction, je tourne, je m'en vais dans l'autre direction. Je m'en vais vers Jésus. Je le réclame, justement, sa justice. Je veux le recevoir. Alors, je tourne, justement, mon dos aux choses qui m'attirent loin de Jésus. Et je me tourne, je me repens, je me tourne vers le Christ. Et la troisième chose, maintenant, c'est justement, de le recevoir, de l'inviter par une simple prière. Ce n'est pas besoin que ce soit compliqué. Jésus a dit, si quelqu'un entends ma voix, je suis en train de frapper. Peut-être ce matin, vous êtes ici, vous ne connaissez pas Christ. Christ est en train de frapper à la porte de votre cœur. Est-ce que vous allez l'inviter de dire, Jésus, viens dans ma vie. Viens me sauver. Je crois en toi. Oui, je te vois à la croix, à ma place, en train de mourir pour mes péchés. Quel beau texte ici. Sachez donc que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Et que quiconque croit est justifié de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Comment est-ce que l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Quiconque croit est justifié. Crois simplement au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Crois dans son œuvre. Crois dans son amour. Crois dans l'amour du Père qui a trouvé un représentant pour l'humanité dans la personne de Jésus, parfaitement Dieu, parfaitement homme, qui a vécu cette vie de perfection devant Dieu et qui est mort aussi à notre place pour justement satisfaire aux exigences de Christ. Alors, si vous êtes ici, encore une fois, je plaide avec vous parce que la Bible dit « Voici maintenant le jour favorable. Voici maintenant le jour du salut. » vous ne pouvez pas garantir qu'est-ce qui va vous arriver demain. Et si le Seigneur vous a parlé ce matin, prendre la décision maintenant, là où vous êtes, d'accepter Jésus-Christ comme votre sauveur personnel et avoir l'assurance d'être justifié, d'être pur devant Dieu, d'être déclaré juste, de recevoir le pardon des péchés, avoir la vie éternelle et de commencer une nouvelle vie avec Christ. Où est-ce que Dieu peut maintenant vous utiliser avec vos forces et vos faiblesses et de faire des choses extraordinaires et même aussi être un héros de l'Évangile parce que nos contemporains ont besoin d'entendre le message de l'Évangile, que Jésus, l'agneau impeccable, est venu régler notre problématique devant un Dieu qui est trois fois saint. Alors prenez la décision ce matin, sans plus tarder. Là où vous êtes, dans votre cœur, dis à Jésus, viens, je te prends comme mon sauveur et mon Seigneur, et vous serez sauvés. On va prier. Seigneur, on te rend grâce tout d'abord pour ta personne. Nous avons chanté que tu es un Dieu qui est merveilleux. Merci Dieu le Père de nous avoir donné Jésus. Merci de ton grand amour, ton grand cœur. Ta parole nous dit que c'est celui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Alors merci pour ce don d'amour. Et Jésus, merci d'être venu pour régler notre problématique. Merci de dire qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et ce matin, nous voulons te remercier, nous voulons t'exalter parce que nul est comme toi. Tu es incomparable, Jésus. Nous te proclamons roi. Même là où les gens ont caché dans ton visage, on dit, nous voulons pas que cet homme règne sur nous. Nous te disons que tu es notre roi. Seigneur, tu connais les cœurs de chaque personne ici ce matin. Nous qui sommes sauvés, nous qui te connaissons, Seigneur, aide-nous à marcher de plus en plus dans cette voie de sanctification. Aide-nous, Seigneur, de dire non aux choses de ce monde et de dire oui à ce que tu as préparé pour nous, Seigneur, afin que nous puissions justement te glorifier, accomplir les œuvres que tu as préparées pour nous, afin que nous puissions ressembler, Seigneur, plus à ton Fils Jésus-Christ. Et s'il y a quelques-uns ce matin ici, Seigneur, qui ne te connaissent pas, Seigneur, tu es un Dieu de miséricorde. Ouvre leurs yeux. Que le Saint-Esprit puisse leur montrer leurs conditions devant toi. Oh Seigneur, donne-leur cette grâce de se repentir et de prendre Jésus-Christ comme leur sauveur. Demandant ces choses au nom de Jésus. Amen.